Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sûr IDFM Radio, soyez les bienvenus dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Émission hautement culturelle ce soir, puisque elle interroge une des notions les plus complexes et les plus anciennes de nos sociétés, à savoir l'idée de démocratie. Ce qui semblait être un bien acquis depuis plus de 2 siècles, notamment en France, s'avère depuis quelques années discuté, contredit, remis en question, relativisé, parfois dénaturé, parfois même démembré. Est-ce que de parler de démocratie aujourd'hui, aspirer à l'avoir assurée et garantie par les pouvoirs en place, est devenu un horizon idéalisé, un rêve pour les citoyens ou même une utopie? De quoi parle-t-on quand on dit démocratie? Parle-t-on du pouvoir du peuple? Grande abstraction. Parle-t-on des élections? Un moyen peut-être de la réaliser. Parle-t-on de droit constitutionnel? Parle-t-on de république? Parle-t-on de liberté de faire ce que l'on veut? Démocratie est devenue un concept un peu fourre-tout, un mot dont on peut se servir à l'envi, sans véritablement dire ce qu'elle est. Pour mieux en cerner les fondements, j'ai demandé à 2 philosophes de venir nous aider à y voir plus clair. Ils sont tous les 2 professeurs de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, spécialisés en histoire des idées et notamment des idées politiques. Avec eux, nous allons explorer les sources de ce concept et faire, en moins d'une heure, c'est un record mondial, une histoire brève histoire du concept de démocratie. Comme ce sont l'un et l'autre des athlètes de haut niveau, je suis sûr que dans une heure, vous aurez les idées claires sur le sujet. Tout au moins, c'est le pari que nous faisons. Bonsoir Jean-François Rioux.
Bonsoir cher ami. Très heureux d'être associé à ce projet sympathique, mais un peu extravagant quand même. Hein.
L'extravagance, on verra. C'est peut-être à propos des concepts philosophiques qui sont extravagants. Bonsoir Philippe Touché.
Bonsoir et merci d'être là.
C'est nous qui vous remercions tous les 2 d'être nos interlocuteurs, nos éclaireurs en philosophie politique. Et tout d'abord, j'aimerais vous demander à l'un et à l'autre, très rapidement, ce que la philosophie a à voir et ce qu'elle a à dire et si elle est légitime pour parler de démocratie. Je demande ça déjà à Philippe Touché. La philosophie et la démocratie.
Oui, bien écoutez, la démocratie a tout de suite interrogé les philosophes, puisque Platon lui-même a décidé d'en parler pour la critiquer pratiquement en même temps que sa fondation. Et en fait, étant donné que la démocratie suppose le pouvoir de la parole, le pouvoir politique accordé à la parole, et que le philosophe, lui, interroge ce que parler veut dire et de quoi on parle, je pense que la philosophie a quelque chose à dire d'elle.
Ah, très intéressant. On démarre sur la parole et le langage pour définir ce que la philosophie a à dire à propos de la démocratie. Jean-François Rioux.
Oui, je rebondis sur les propos de mon ami Philippe. Pour effectivement insister sur cet impact du langage et la façon dont Platon l'a interrogé. On sait très bien qu'il a fait le procès de la sophistique, hein, et de tous ces beaux parleurs qui donc ont accaparé la parole publique. Ce qu'il y a de surprenant chez Platon, c'est qu'il a tout de suite cru bon, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent, me semble-t-il, à ses origines personnelles en grande partie, mais cru bon d'en faire la critique. Pourquoi ? Parce qu'il redoute ce que l'on pourrait nommer l'autre de la démocratie, c'est-à-dire la tyrannie. Et il est persuadé que, en règle générale, elle peut faire le lit de la tyrannie, et d'où sa critique assez acerbe à son endroit et ses fameux textes sur la dégénérescence des cités.
Alors, nous allons évidemment explorer tout ceci dans le détail. Il se trouve que vous avez donné une conférence à deux voix, il y a quelques semaines à peine, au cinéma L'Éden de Montmorency, bien connu de nos auditeurs et de nos auditrices, une conférence qui est annuelle et qui a trait à une commémoration du dépôt des cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. Dans cette conférence, cette double conférence, vous avez abordé justement ce sujet assez complexe autour du thème de la démocratie, du pouvoir. On vient d'en apercevoir quelques traits. J'aimerais, avant, on reviendra à Rousseau, bien entendu, mais avant cela, j'aimerais qu'on retourne à l'étymologie du terme, à son origine. Jean-François Rieu vient d'évoquer Platon et l'ambiguïté ou la contradiction qu'il y a entre démocratie et tyrannie. Quelle est l'origine de ce mot, démocratie ? Qu'est-ce qu'il signifie et dans quelles conditions est-ce qu'il est né ?
Bon, l'histoire du concept ou de la notion, qui est d'ailleurs une notion parfois un peu fourre-tout, est inscrite dans une longue durée, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, démocratie, on sait très bien, avec un peu d'étymologie tout de suite, ce que l'on peut en tirer, c'est-à-dire le gouvernement par le peuple. Ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur la genèse quand même de cette façon de gouverner les cités et peut-être de remonter, comme vous le suggériez, assez loin, puisque dès le 6e, 5e siècle, on a toute une constellation de cités dans la Grèce antique, où s'amorcent manifestement des organisations qui annoncent assez clairement la démocratie. On a en tête le nom de très grands législateurs qui ont contribué à l'émergence de tout cela, en particulier Solon, qui passe pour un des grands sages de la Grèce, et puis Clisthène, qui lui a succédé. Tous ces grands personnages, donc, ont contribué peu à peu à mettre en place ce qu'on va nommer d'un terme un peu technique l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité des citoyens devant la loi, en gros. Qu'on distinguerait chez Solon d'une autre notion qui est plus ouverte, plus souple, qui est la notion d'eunomie, c'est-à-dire d'harmonie. Donc c'est bien joli l'harmonie, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut l'organiser. Donc il y a de la part de Solon et surtout de ses successeurs un souci d'organiser tout de même politiquement un peu clairement ces cités et d'aller vers peu à peu l'affirmation d'une égalité civile, politique. On réfléchit par exemple au droit de cité proposé à tous les autochtones d'une cité, comme ce fut le cas à Athènes. Et chacun sait aussi qu'à Athènes, ce mot est bien connu. On se réunissait à l'agora. Et pour y réunir quoi ? Bien une assemblée qu'on nomme Ecclésia. Et au sein de cette assemblée, bien on débat d'abord du respect du droit écrit, essentiellement de la loi nomos. On s'attache à y recueillir donc la tradition de la cité. Bref, on a à l'agora déjà l'amorce du centre de la vie politique, et on y accueille donc l'ecclésia. Ce qui veut dire qu'il y a un déclin par ailleurs, je dirais, des structures plus aristocratiques, et en particulier autre nom que vous avez en tête sans doute, le fameux aréopage, qui réunissait donc des gens de haute fonction, de haute classe en règle générale, d'où une recherche d'équilibre, et ça va aboutir peu à peu au maintien d'un conseil, le conseil des 500 à Athènes, qui prépare en règle générale toute réflexion sur la loi que l'Ecclésia s'apprête à cautionner ou à amender, etc.
Donc, voilà. On a une structure, je dirais, politique autour de quelques centaines de citoyens de haut niveau qui sont des magistrats. Platon parlait aussi des philosophes qui avaient, par nature, je dirais, la capacité de diriger le monde. Est-ce que, Philippe Touché, vous vous sentez être un potentiel dirigeant du monde, comme philosophe ou comme roi, les deux?
Alors, donc, il y a chez Platon cette idée très importante que la démocratie, pour lui, qui est donc le pouvoir du peuple, le peuple devenant en fait l'ensemble des citoyens qui ont le pouvoir législatif et exécutif en même temps, que ce pouvoir du peuple est fondé, selon lui, sur une mécompréhension de la politique, ce que pour lui la politique est le gouvernement de la justice. Et selon lui, la justice ne saurait être autre chose que l'acte par lequel on va mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Le problème d'un pouvoir, quel qu'il soit, d'un pouvoir politique, c'est d'installer la bonne personne à la bonne place, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas un renversement des hiérarchies, que celui qui a toutes les qualités pour être gouvernant ne soit pas gouverné, et inversement. Et donc il comprend, lui, la démocratie comme étant le renversement de toutes les hiérarchies, et en particulier de ce qui lui paraît déterminant, c'est-à-dire la hiérarchie du savoir. Seul celui qui sait ce qu'est la justice, doit pouvoir gouverner la cité, car celui qui ignore ce qu'est la justice, et on ne peut avoir de la justice qu'une idée, qu'une connaissance idéale, celui qui vit dans ce qu'il appelle le peuple, qu'il appelle par ailleurs le gros animal, donc il y a cette ambiguïté du mot peuple, vit lui dans la logique des plaisirs, dans la logique des besoins, dans la logique de la vitalité la plus triviale. Et par conséquent, pour lui, il y a dans la démocratie la prédominance à venir de ce qu'il appellera l'éros tyran, le règne tyrannique du désir. Et c'est pourquoi le philosophe, lui, doit être roi, ou le roi philosophe, mais non pas pour produire une démocratie, mais au contraire pour produire une monarchie du savoir, une monarchie de la vertu.
Monarchie de la vertu, monarchie du bien. On trouve ces éléments philosophiques platoniciens dans la République, dans les lois. Est-ce que... pardon, Jean-François Rio.
Non, mais je voulais simplement rebondir sur ce que Philippe vient de dire. Il est évident qu'à partir du moment où le peuple a le pouvoir, qu'il est le souverain même des lois, eu égard aux ressorts qui l'animent, qui viennent d'être évoqués, il y a un risque de décret arbitraire, il y a un risque de démesure, l'emportant donc sur au moins peut-être la tradition, en tout cas sur une juste mesure, risque de transgression des lois, peut-être même aussi d'oppression des minorités. Donc la souveraineté populaire, pour Platon, je viens d'entendre l'expression qu'a employée Philippe, mais au règne, alors qu'on parle de gros animal, mais au règne de la masse, voilà. Le règne de la masse et à ses injonctions. Et donc, de monarque, le peuple peut se faire despote, donc, et engendrer ce que je nommais tout à l'heure, donc, son altérité, c'est-à-dire, donc, une tyrannie possible, voilà.
Très, très intéressant, la démocratie nécessite à la fois l'esprit de justice et l'esprit de modération pour éviter justement toutes les dérives possibles, soit vers la tyrannie, soit vers le despotisme, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'il y a une petite différence entre, à quelques dizaines d'années près, entre Platon et Aristote dans le politique Jean-François Rillaud.
Oui, je pense que Aristote, plus que Platon, s'intéresse aux axiomes de la démocratie, c'est-à-dire à l'idée de liberté et d'égalité. Mais effectivement, être libre, ça renvoie bien à ce que Philippe laissait entendre, reste avant tout une affaire d'éducation. Bon, une affaire d'éducation est libre celui qui sait dépasser justement la puissance affligeante donc de besoins assez sommaires, etc. Donc il y a une façon donc de s'en prendre donc à cette espèce de terroir ou d'humus, je dirais, discutable. Donc pour Aristote, en affinant l'éducation, on peut disposer à son gré, je dirais, de la part de, comment dire, de la part d'une existence qui échappe à l'espace public. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir la liberté d'un point de vue d'Aristote, et pas forcément au sens très politique, effectivement. Mais quant à l'égalité, elle est, pour lui, elle reste bien la réalisation de ce que je nommais tout à l'heure l'isonomie. C'est une égalité devant la loi, il y est sensible, et il y a donc, de fait, pour tout citoyen, une possibilité d'agir de la même façon devant la loi. Et cette égalité, elle est tellement envisageable, voire peut-être promue dans son esprit, qu'il n'est pas surpris que l'on tire au sort, par exemple, les magistrats. Les archontes, par exemple, sont tirés au sort. Donc, parce que on est d'accord avec cette idée, donc, d'une égalité de tous devant la loi. Ça, je trouve que c'est d'une grande modernité. Ça va poser problème, alors que Platon lui avait déjà relevé, parce qu'il voit bien un risque d'anarchie, parce qu'effectivement, il y a des individus de mérites différents, comme disait Philippe, et effectivement, ils ne sont pas tous susceptibles d'agir avec la même compétence, la même habileté, d'où le risque de pagaille, bon, tout simplement.
Aristote a bien vu. Écoutez, puisqu'on est dans la recherche d'une harmonie, je vais vous proposer un peu de musique qui va nous emmener aussi vers une vision un peu miraculeuse de l'Antiquité. C'est l'Antiquité vue par Claude Debussy dans Syrinx avec à la flûte Emmanuel Bahut. Voilà, vous êtes bien sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy, une émission philosophique avec deux philosophes, Jean-François Rillaud et Philippe Touché, autour de la notion de démocratie, une brève histoire de l'idée de démocratie et de ce qu'en fait la philosophie. Au fond, il me semblait qu'il y avait un enjeu, et on peut dire que cet enjeu, c'est le rapport entre le sommet et la base d'une pyramide. À la base, la multitude, au sommet, un individu ou un petit groupe d'individus. À la base, tout le monde veut exister et posséder quelque chose, une, comme on dirait aujourd'hui, une part du gâteau, mais que ce soit fait avec une certaine équité. Qui doit décider de l'équilibre entre ses pouvoirs et comment se règle à ces périodes, peut-être on pourrait parler du Moyen-Âge, où le pouvoir religieux et le pouvoir seigneurial ou royal sont extrêmement liés et même confondus. Avec je vais essayer de passer la parole pour qu'on nous éclaire sur ce sujet. Quel est le sens de la démocratie et comment se fait l'équilibre, la recherche d'harmonie dont on parlait tout à l'heure entre le sommet de la pyramide et la base de la pyramide? Bon, je vais poser la question à Jean-François Rio.
Bon, pour faire peut-être aussi simple que possible et ne pas trop passer de temps sur cette question, mais je crois qu'il faut quand même rappeler que du fait du christianisme, et en particulier du paulinisme, il y a cette idée que tout pouvoir ou toute autorité vient de Dieu au bout d'un moment. Donc l'héritage grec est malmené, dirais-je, enfin gréco-latin, par ce type de conviction. Et on va arriver peu à peu à ce que vous avez nommé donc l'établissement d'un pouvoir féodal, qui évidemment se réclame d'une autorité tutélaire de cet ordre-là. L'énorme problème, en tout cas, que va rencontrer le pouvoir féodal, c'est tout simplement le problème de la vacance du pouvoir au moment où le souverain disparaît. Bon. Et donc, d'où ces conflits entre hiérarques, pourrais-je dire, entre responsables d'une même collectivité, alors les ordalies, les tournois, les autres moyens de trouver non pas le meilleur, mais peut-être le plus fort d'entre eux, mais toujours parce qu'il y a jugement de Dieu, quelque part, qui accompagne donc la reconnaissance d'une autorité. Et c'est ce type de conjonction qui va peu à peu aboutir donc à la monarchie de droit divin, pour faire très vite, mais il y a ce passage par cet héritage judéo-chrétien qui a, je dirais, contribué à mettre quelque peu entre parenthèses l'idéal démocratique.
On va poser cette question à Philippe Touché. Cette organisation avec une multitude et un pouvoir unique et au sommet qui tient de la volonté divine.
Oui, alors je vais me permettre de revenir sur ce que vous appelez, enfin, cette idée de multitude. Parce que, lorsque la démocratie antique s'était constituée, avait constitué la démocratie, il s'agissait justement, c'est curieux, mais d'éviter l'idée de multitude. Parce que la multitude, au fond, c'est une masse sans distinction d'individus tels qu'ils n'auraient pas nécessairement quelque chose en commun, sauf peut-être un intérêt commun. Et il est, pour ainsi dire, impossible de construire un régime politique quel qu'il soit sur la base d'une convergence éventuelle des intérêts de la multitude. Un bon penseur des problèmes de la multitude est un penseur bien plus tardif qui est La Boétie, dans le discours sur la servitude volontaire, où il écrit un livre donc dont le sous-titre est « Le contre-un », hein, donc c'est un texte contre la monarchie absolue, bien sûr contre la monarchie, mais surtout contre le fait que la multitude, du fait de son incapacité à se construire à partir d'une idée commune, pas seulement d'un intérêt commun, mais d'une idée commune, engendre nécessairement une tyrannie, et il y a là l'idée d'une pyramide, mais d'une pyramide tyrannique. À savoir que comment un seul homme peut-il gouverner à une multitude, dit-il ? Eh bien, il ne le fait pas directement, mais il confère une partie de son pouvoir despotique à des tyrannos inférieurs, qui eux-mêmes sont tyrannisés par le tyran, mais qui ensuite tyrannisent au-dessus d'eux. Et la multitude, c'est la dernière des classes, celle qui a rien en dessous d'elle à tyranniser et qui est tyrannisée par toute la pyramide des pouvoirs. Donc c'est vous dire, et ça c'est une question très intéressante, que le problème de la démocratie, c'est pas simplement d'accorder le pouvoir au peuple et de l'accorder à tous, c'est de constituer la multitude en peuple, c'est-à-dire en une unité de valeurs, de pensées, une unité politique. Et cela, évidemment, c'est quelque chose de très complexe. On va y revenir, je pense.
Voilà, peut-être c'est un apport considérable du développement scientifique vers plus de rationalité qu'offre la période de la Renaissance. Hein. On peut penser à la Boétie, à Montaigne évidemment, qui dans les essais parle quand même beaucoup de politique, lui-même étant un peu obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de devenir maire de Bordeaux comme son père, comme on le sait. Mais peut-être, Jean-François Rio, peut-être un mot sur Machiavel, qui peut être un penseur de ce dont vient de nous parler Philippe Touché.
Oui, je pense à Montaigne, entre parenthèses, pour juste en dire un mot, mais qui a été sollicité par le monarque pour obtenir, pour le placer au plus haut niveau. Il voulait en faire un connétable. Le roi est passé chez Montaigne pour le solliciter. Donc c'est un homme qui a beaucoup compté, enfin qui politiquement, dans le paysage de l'époque, a fait saillie, pourrais-je dire. Alors pour ce qui est de Machiavel, autre penseur de l'époque, je trouve intéressant d'en dire quelques mots. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de ces gens qui ont fait la critique de Platon et d'Aristote. Pourquoi ? Parce qu'il trouve extravagant justement de prétendre réaliser ici-bas, dans l'espace de la cité, la justice. Pour lui, c'est une prétention morale déplacée, qui est excessive et extravagante, qui n'a pas de réalisme quelconque. Et alors ça va lui permettre, et c'est pourquoi il aura tellement d'ennui, de s'en prendre à la morale chrétienne, qui invite à aimer son prochain, à présenter sa propre joue à l'ennemi, à aimer l'ennemi, enfin, tout cela, ou à laisser la vie sauve à l'ennemi, etc. Il dit tout cela, ça affaiblit, évidemment, le sentiment d'identification des citoyens à la cité. Ça, c'est une affaire qui revient souvent chez Machiavel. Et donc, le prince doit faire preuve de virtu, comme il dit, autrement dire...
De vertu.
De vertu. Mais pour lui, c'est être à la fois lion et renard. Voilà. Lion et renard, autrement dit, la force du lion et la ruse du renard. Donc, c'est un parti pris, encore une fois, qui est celui d'un prétendu réalisme. Il n'a pas beaucoup d'affection pour ce qu'on pourrait nommer le peuple. Il est habile simplement en disant il faut que le pouvoir puisse jouer de la nécessité du paraître. Ce qui compte, c'est de paraître. La question n'est pas de savoir si l'on doit être clément, mais si il est possible d'être estimé tel, par exemple, par les sujets. Donc, il y a chez Machiavel, c'est peut-être ce point simplement à relever, une quête permanente, je dirais, des effets positifs du paraître. Et le prince doit, qu'il s'agisse d'un Sforza ou d'un Borgia, il doit donc avant tout se faire valoir à travers le paraître, et comme ça il impressionne le peuple.
Alors voilà quelque chose qui est un nouvel apport, c'est le cynisme peut-être, qui est une demi-sœur bâtarde de la démocratie, c'est le cynisme, c'est de faire croire qu'on est vraiment... du côté du peuple. Philippe Touché voudrait ajouter un commentaire.
Oui, par rapport à Machiavel, il importe aussi de dire que Machiavel ne pense pas, enfin, se propose d'abandonner la thèse antique de la communauté, de la police, de la communauté politique. Pour lui, un peuple est une série de forces en présence, d'intérêts structurés en un certain nombre de rapports de force, mais divergents. Et donc le prince doit réussir à ordonner cette société multiple, cette société conflictuelle en un certain sens, par tous les moyens qui sont à disposition, parmi lesquels il y a effectivement l'usage d'une forme parfois simplement démagogique, hein, n'est-ce pas, du peuple. On peut faire servir l'idée que l'on croit être celle du peuple contre les grands, mais on peut faire servir à des moments les grands contre le peuple. Le prince est au fond quelqu'un qui doit renoncer à l'idéal de la communauté politique. Et c'est cette idée-là qui va, d'une certaine manière, ressurgir après, dans les siècles suivants, mais par un autre moyen, nous allons le voir.
C'est extrêmement intéressant parce que vous nous apportez, vous anticipez sur les parties qui vont nous intéresser et notamment la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle qui vont être des tournants absolus dans cette conception. Mais vous nous engagez vers une autre harmonie mystérieuse et barricadière. On va retrouver Couperin, François Couperin. C'est un choix de Philippe Touchet qui doit être un amateur de cette musique baroque qui a choisi de nous faire entendre ces barricades mystérieuses au clavecin Jean Rondeau, au théorbe Thomas Dunn, une très belle version de ce magnifique morceau. Toujours sur IDFM, radio, dans l'émission Entre chiens et loups. Ici, il n'y a ni chien ni loup, mais des penseurs, deux philosophes qui nous initient à l'histoire de la philosophie, de l'idée de démocratie au travers de différentes périodes. Nous laissions Machiavel il y a quelques instants. On pourrait citer évidemment Pascal qui a aussi une réflexion sur la politique, mais Philippe Touchet aimerait nous dire, comme si nous étions les élèves de classe préparatoire, quelle chance, aimerait nous dire un mot de Spinoza qui est dans son traité, le traité théologico-politique, traité politique, qui définit la démocratie d'une certaine façon et le peuple également. Philippe Touchet.
Alors, en réalité, le XVIIe et le XVIIIe siècle vont repenser la démocratie sous une nouvelle forme parce que, alors même que le mot est le même que l'Antiquité, la conception de l'ordre politique a profondément changé. Ce qui a profondément changé, c'est que émerge cette idée chez les penseurs depuis Hobbes jusqu'à Rousseau et Kant, qu'au fond, la politique et l'État souverain doivent se constituer sur la base du droit naturel de l'individu. Cette nouvelle figure qui émerge, celle d'un individu, l'homme, naturel, qui a des droits en tant qu'homme, droits d'une certaine manière inaliénables, sa liberté, inaliénable par aucun pouvoir, et qui, en un certain sens, doit, par son alliance avec l'autre homme, produire un État souverain. Et toute la réflexion des différents philosophes dont nous allons parler, c'est d'expliquer et d'essayer de saisir comment on peut parvenir à passer de la souveraineté naturelle de l'individu, cette souveraineté de l'homme naturel sur lui-même à l'état de nature, à un état civil dont la souveraineté appartient à l'état seul. Et Spinoza, après Hobbes, va considérer de ce point de vue que la démocratie est le régime, d'une certaine façon, le meilleur, parce qu'il est celui qui, conférant le pouvoir souverain à tout le peuple, le confère à chacun, et le conférant à chacun, il transfère sous une forme politique le droit naturel de chaque individu à quelque chose qui, tout en étant politique, ne peut pas être contraire à l'individu qui a transféré ce droit. Il affirme que la démocratie est là où, d'une certaine manière, les décisions les plus absurdes ne peuvent pas se prendre, contrairement à la monarchie ou à l'aristocratie, parce que, d'une certaine manière, la démocratie étant de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, même si j'anticipe un peu là aussi, il y a peu de chances que les individus citoyens puissent vouloir collectivement et par leur plus grand nombre, quelque chose qui leur soit tout simplement contraire.
Donc on a bien l'idée de l'invention, en quelque sorte, d'un individu libre et conscient, qui est responsable, d'une certaine façon, qui échange avec ses semblables, mais qui confère aussi le pouvoir à certains représentants. C'est bien ça que Spinoza retient ?
Oui, chez Spinoza, mais conscient au sens de rationnel, pas nécessairement. Il faut bien l'état civil pour qu'il sorte de ce que l'on pourrait appeler la forme naturelle de son intérêt, son droit sur toute chose, qui peut produire la guerre à l'état de nature, et qu'il accepte l'autorité plus rationnelle, plus cultivée de la loi. Donc c'est le passage à l'état civil qui, au fond, le rend conscient. C'est pour ça que je parle de l'individu qui devient citoyen.
Ah ben alors, on se rapproche sans doute d'une théorie anglaise de Hobbes, non, Jean-François Rio, qui donnera lieu justement peut-être à l'établissement, bien avant la Révolution française, d'une sorte de représentation nationale en Angleterre.
Alors je pense que Spinoza est plus en avance que Hobbes quant à sa conception justement de la, je dirais, des modes de fonctionnement d'une société. Philippe l'a bien fait sentir. J'aurais simplement rappelé quand même que Hobbes, qu'est-ce qu'il apporte essentiellement ? Une réflexion qui est fondée d'abord sur l'anthropologie. Bon, pour lui, l'homme est un être mu par la crainte de la mort, par le désir, et effectivement, un petit peu comme Spinoza se pose la question, il faut sortir de cet état primitif, fondé donc sur des pratiques tout à fait affligeantes, puisque chacun est une menace pour l'autre. Donc il faut parvenir, il y a quand même chez Hobbes l'idée de trouver une médiation, un état artificiel, pourrait-on dire, sur les bases de la raison. Donc il faut trouver le moyen de passer de l'état de nature à l'état civil. Et cet état de nature, qui est un état de guerre de tous contre tous, que tout le monde a en tête, c'est une formule bien connue, et pour en sortir, il faut renoncer à tous ses droits. Il y a déjà peut-être l'amorce de l'idée d'une aliénation, sur laquelle on pourrait revenir plus tard avec Rousseau, mais donc il faut transférer ces droits naturels droits dont tu viens de parler, c'est-à-dire droits inaliénables, notamment, par exemple le droit de préserver sa propre vie, à une personne. Alors, cette personne, on va l'appeler souverain. Le problème, c'est de savoir qui est ce souverain, bien évidemment. Souverain qui est dépositaire de l'État. Ceci est développé dans le fameux texte du Léviathan. Et dans ce Léviathan, chacun devient sujet du souverain en devenant aussi, par certains côtés, auteur de tous les actes du souverain. Autrement dit, la multitude des individus est, en théorie, ramenée, pourrais-je dire, à l'unité du souverain. Et le souverain a pour fin la conservation des individus, et la loi en est le garant, hein. Et il y a chez Hobbes cette idée qu'on peut se rebeller contre le souverain si il n'assure pas cette fin, c'est-à-dire la conservation de soi. Donc on a chez Hobbes aussi un penseur qui, pour la première fois, introduirait, pourrais-je dire, l'idée d'un certain positivisme juridique, c'est-à-dire qu'il invite aussi à considérer que la loi, évidemment, c'est ce qui nous arrache définitivement à l'état de nature, et à partir du moment où elle est formulée, bien, on la respecte, voilà. Mais il y a équivoque quant à la façon dont le souverain peut se donner à voir et à être. On est bien d'accord.
Eh bien, le peuple en décidera. On va te poser la question à Philippe Touché, parce que toute cette problématique autour de Spinoza d'abord et de Hobbes nous conduit assez directement vers les fondements de la démocratie formulés par Jean-Jacques Rousseau. Philippe Touché.
Oui, alors, les fondements de la République chez Jean-Jacques Rousseau, et non pas les fondements de la démocratie, mais cette distinction, elle est très importante, et je vais m'y arrêter. Parce que, justement, la thèse de Rousseau, c'est que, pour lui, l'homme est né libre, ça veut dire que sa liberté d'homme est en un sens sa pure définition. Il faut trouver un régime politique dans lequel cette liberté, tout en se transformant, en abandonnant la liberté naturelle, en aliénant universellement tous les droits naturels, elle doit être aliénée, c'est-à-dire livrée, donnée à quelque chose, à quelque pouvoir qui ne serait ni tyrannique, ni despotique, ni monarchique, bref, que ce ne soit pas une aliénation au droit du plus fort. La formule de Rousseau, c'est de dire que cette aliénation suppose le passage par la constitution d'une volonté générale, de sorte que chacun, en donnant à tous, personne ne donne à personne et chacun est aussi libre qu'auparavant. Telle est la constitution de l'idée de république, la chose publique, la volonté générale est ce que Rousseau va appeler le peuple, mais le peuple cette fois pensé comme cette unité indivisible des volontés multiples, soulevez-vous, mais qui ne font plus qu'une seule volonté, parce que chaque individu a aliéné ses intérêts propres au nom de la volonté générale.
Cela dit, il faut que les individus en question soient tout à fait dignes, responsables et bien élevés. Parce que les égoïsmes vont aussi apparaître, si ce n'est dans une vision idéalisée, complètement irénique de la vie publique. Philippe Touché.
Alors c'est toute l'analyse de Rousseau, justement, qui est le passage, si je puis dire, du livre 1 du Contrat social, où il parle de république, donc d'état civil, de volonté générale, et qui désigne au fond la constitution du pouvoir législatif, au livre 2, où il va être question, au livre 2 et au livre 3, où il va être question du gouvernement. Et là, la démocratie apparaît comme une forme de gouvernement qui n'est pas celle de la République, d'où les confusions qu'on fait un peu aujourd'hui, malheureusement, entre ces deux concepts. Et c'est une forme de gouvernement où le pouvoir exécutif lui-même appartient au peuple, hein. Et là, pour Rousseau, Ils considèrent que c'est un régime d'une exigence énorme. Il faudrait que les citoyens soient tous également conscients de la rationalité de la loi. Et comment fait-on, justement ?
On va poser la question à Jean-François Rio, qui doit avoir une réponse, je suppose.
Oui, mais... oui, évidemment, Philippe a mis le doigt sur une des difficultés propres au rousseauisme. Bon, je crois que lui-même, Rousseau, a parfaitement perçu sa... On ne pourrait pas dire sa propre déficience dans son analyse, mais il voit bien qu'il faut une médiation qui va être l'éducation. Donc on sait très bien que l'Émile est censé former le citoyen apte à épouser, je dirais, ces directions qu'on vient d'indiquer. Moi, je dirais simplement qu'il y a une conviction sympathique chez Rousseau, c'est que finalement, on dégage en nous une rationalité qui est à proportion inverse de l'abandon de nos égoïsmes. Donc il y a quand même une solution morale, quelque part, à une question politique chez Rousseau. C'est-à-dire que plus on dépasse ces petits travers, ces intérêts personnels, plus on se retrouve tous autour de ce noyau qu'on abrite tous, c'est-à-dire une rationalité qui est le ferment même de la volonté générale et ce par quoi on va pouvoir faire la loi. Il n'y a rien à faire tant qu'on n'a pas évidemment dégagé par un processus éducatif de qualité, sans aucun doute. Il y a d'autres ficelles aussi. Par exemple, il ne faut pas oublier chez Rousseau, à la fin du contrat social, ce qu'il dit de la religion civile, pour perpétuer justement l'attachement à cette pratique qu'il veut mettre en place, il faut avoir le culte du lien social, et qui se substituerait à un culte plus obscur qui celui d'une transcendance relativement absente. Là, on a, chez Rousseau, ce souci d'apprendre à honorer le lien social, ce qui inspirera d'ailleurs certains de nos révolutionnaires, indiscutablement.
Évidemment, qui ne viennent que, il faut bien le comprendre, ça, une cinquantaine d'années après, le contrat social.
Absolument. Oui, pour dire un mot, c'est que... Rousseau est dans une position très ambiguë par rapport à la démocratie, puisque d'un côté il considère, il le dit dans le chapitre qui porte sur la démocratie, que c'est le régime que devraient accepter et adopter les dieux s'ils formaient une communauté politique, voilà. Mais que précisément, comme nous ne sommes pas des dieux, c'est un régime qui, d'une certaine manière, dans son idéalité même, ne peut pas vraiment exister. Et ajoute-t-il, et ça c'est intéressant parce qu'il y a aussi une forme d'anthropologie politique chez Rousseau, il considère que ce régime, la démocratie, ne serait possible que dans les États de petite taille. Voilà. Dès que l'État... Alors, si l'État est de petite taille, et il pense notamment aux États commençants, aux États au commencement de leur existence politique, oui, la démocratie, c'est-à-dire finalement la conjonction du magistrat et du citoyen, la conjonction de celui qui gouverne et de celui qui décide, cette conjonction est possible. Mais dès qu'on entre dans des états de plus grande taille, à mesure, dit-il, que se multiplient ceux qui ont le pouvoir, chacun en a le moins, c'est presque une évolution mathématique, et à partir de ce moment-là, inévitablement, la démocratie chute dans des formes dangereuses et despotiques.
Alors, précisément, l'histoire nous a montré que tout ceci se développait malheureusement en empire, et les empires sont en contradiction malheureuse avec cette vision extrêmement rationnelle et raisonnable initiée par Jean-Jacques Rousseau. On va s'interrompre quelques secondes pour enjamber encore 150 ou 200 ans pour aller vers le 20e siècle, et on va se mettre dans l'esprit du 20e siècle avec cet opéra de quatre sous. De Kurt Weill et Bertolt Brecht. Nous reprenons notre conversation passionnante après avoir écouté Ella Fitzgerald dans McDonald's.
Thank you. Oh, the shark has curly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a teeth, dear, scarlet billows down.
Voilà, nous sommes toujours sur IDFM, radio Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy. Je suis ce soir en compagnie de Jean-François Rio et Philippe Touché, avec qui nous faisons l'histoire philosophique du concept de démocratie. Nous arrivons au XXe siècle où la pensée trouve d'autres habits pour définir ce qu'est la démocratie. Et j'aimerais poser la question à Philippe Touché des apports du XXe siècle, enfin, du XIXe et du XXe siècle pour cet aspect de la pensée philosophique.
Oui, le XIXe et le XXe siècle, ne l'oublions pas, sont le siècle de la révolution industrielle et de la naissance notamment de la classe ouvrière, bien sûr. Et très rapidement, les penseurs, dont Marx et Engels, vont se rendre compte que la définition qu'on avait jusque-là de la démocratie comme d'un régime politique, bon ou mauvais, ne remplit plus du tout sa fonction démocratique, précisément parce qu'on peut très bien avoir un régime politique démocratique sur la base d'une société divisée en classes antagonistes et profondément antidémocratique. Autrement dit, on peut très bien avoir un régime politique qui vise l'idée de peuple dans sa constitution et même dans ses droits, et dans les faits, des oppositions, des inégalités sociales majeures, comme nous les connaissons aujourd'hui, qui, au fond, minent de l'intérieur la possibilité même d'une véritable vie démocratique. Qu'est-ce qu'un peuple si, par exemple, les enfants d'ouvriers ne peuvent pas aller à l'école, pour prendre un simple exemple. Donc c'est sur cette base-là que va s'instaurer au XIXe siècle avec Marx et Lénine une critique fondamentale de la démocratie au sens parlementaire, au sens représentatif, et où va s'instituer ensuite l'idée d'une démocratie sociale, d'une démocratie qui soit, au fond, une société démocratique.
Est-ce qu'il y a aussi quand même des dérives possibles avec cela, puisqu'on a bien vu que le XXe siècle, avec ce principe fondateur hein, d'un peuple qui est éduqué, mais aussi quelque part transcendé, et parfois, il faut bien le dire, opprimé d'une certaine façon par un pouvoir, est-ce que le XXe siècle n'apporte pas aussi la preuve de l'impossibilité de parvenir à ce stade de la démocratie sociale? Je vous redonne la parole, Philippe Touché, sur cet aspect-là.
Tout dépend si les régimes en question peuvent atteindre à une véritable démocratie sociale ou prétendent l'atteindre sans y parvenir. Car évidemment, la difficulté, c'est que les régimes qui vont s'inspirer de ces idées et de la nécessité hein, de construire une sorte de démocratie du réel, une démocratie dans laquelle les citoyens aient de véritables droits à exister, ont souvent reconstitué au fond des aristocraties d'un nouveau genre. Et c'est peut-être ça, au fond, qui a produit les dérives despotiques et même totalitaires hein, que nous lui connaissons.
On n'est jamais à l'abri des mensonges et des turpitudes, Jean-François Rio.
Je voulais dire que d'un point de vue strictement théorique, il est tout à fait envisageable d'avoir une véritable démocratie sociale à partir du moment où on réalise l'homogénéité du corps social, dans, et peut-être par la révolution, comme l'évoquait Lénine. Autrement dit, il y a une erreur peut-être majeure, c'est de continuer à penser en termes d'une pluralité de partis, la représentation populaire. Et cette pluralité de partis correspond, et Marx l'a bien montré, à des intérêts de classe. À partir du moment où, par hypothèse, on arrive à éradiquer cette déchirure, ce déchirement plutôt au sein de la société, on a une véritable homogénéisation ou homogénéité qui fait qu'on n'a plus besoin d'une pluralité de partis pour promouvoir les attentes du peuple. Et ce qui conduit d'ailleurs à distinguer ce qu'on appelle les états de partis d'un état partisan. Mais un état partisan n'est pas, enfin philosophiquement parlant, forcément un état totalitaire. Dans la mesure où... Alors, effectivement, ça n'a peut-être pas marché dans l'histoire, dans l'immédiat, mais c'est une hypothèse qui n'est pas stupide, loin de là, je pense.
Philippe Toucher.
Oui, un mot pour dire que Marx a beaucoup changé sa conception de la démocratie après l'expérience de la Commune de Paris. Parce que la Commune de Paris a établi l'idée d'une démocratie sociale des conseils. Et il a pris conscience que finalement, ce qui pouvait rendre possible la démocratie sociale, c'était l'abandon progressif de l'État comme appareil de domination. Ainsi, par exemple, va-t-il penser qu'il serait nécessaire que le peuple, en armes, soit susceptible d'élire les magistrats, donc, mais de les révoquer à chaque fois qu'il considérerait que leur responsabilité ne serait plus celle du peuple. Cette idée d'une révocation permanente des fonctionnaires, c'est-à-dire d'une révocation permanente des policiers même, qui paraît très idéaliste aujourd'hui, et cependant l'idée qu'il y a peut-être une autre démocratie inventée qui ne soit pas une démocratie d'en haut, oui, mais peut-être une démocratie d'en bas.
Alors, s'il y a des démocraties d'en bas, on a vu ce que ça pouvait faire au Capitole, peut-être au Brésil. C'est pas toujours la vision idéale que on pouvait se faire au moment du XVIIIe siècle. Peut-être qu'il nous a donné vraiment les bases de cette aliénation de sa propre liberté au profit du bien commun. Un très très grand merci à vous deux. Vous voyez qu'on a en moins d'une heure, vous avez été extraordinaire. Jean-François Rio, qui est auteur d'un livre très riche sur les quelques grands chapitres de l'histoire des idées politiques. Ce livre s'intitule Philosophie politique, libre réflexion, au cahier Notre-Dame. Il a également écrit La Nature aux éditions Bréal. Philippe Toucher, professeur et grand auteur de plusieurs ouvrages. L'un s'intitule La vérité, l'autre Le bonheur. Le dernier en date, c'est Le Travail, c'est tout à fait d'actualité, aux éditions Lambert Lucas à Limoges. Je remercie beaucoup Francky qui a réalisé cette émission, que vous pourrez écouter en podcast sur le site de la radio idfm98.fr. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission Entre Chiens et Loups consacrée à des témoignages passionnants de femmes écrivains nées à l'Est de l'Europe pendant la période soviétique et qui ont choisi de vivre à l'Ouest, en démocratie. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM. Tout de suite, Lusso Mundo, l'émission en langue portugaise. Encore un grand merci, Philippe Toucher.
Merci à vous.
Merci. Merci, Jean-François Rio.
Un grand merci pour ce moment qu'on a partagé.